Vous écoutez, on lit pour vous.
Refuser la contrainte, un texte de Vanessa Bell, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires. La scène est froide. Le vent souffle son entêtement hivernal dans les couloirs que forment les immeubles de la haute ville de Québec. Alors que mon visage découvert laisse échapper un torrent de mots. À mes côtés, Chase Cormier, poète louisianais, fait de même. Nous sortons tous deux de la présentation à la Maison de la littérature du travail fait par les artistes de la résidence Acadie-Québec, une performance d'une heure, dont la version finale sera présentée en septembre prochain au Festival acadien de poésie de Caraquette. Réunis autour du thème de la révolte, Héloïse Leblanc, Céleste Godin, Nour Simon et Caroline Belzile-Normand s'y questionnent sur ce que veut dire la révolte identitaire, linguistique et artistique. Sur mon téléphone, j'ai noté « Je dispose de l'espace discret du brouillon pour refuser la contrainte. » Héloïse. Il faut mettre 40 minutes à la marche pour relier les deux lieux que j'appelle « maison ». Dans ce trait d'union, Chase me parle de l'Acadie. Alors que nous enjambons une rivière, je pense à celle dont je fais l'expérience à travers les littératures et les territoires, qui s'étend de la Gaspésie à la Nouvelle-Écosse. J'ignore tout de ce que veut dire être acadien, acadienne aux États-Unis, encore plus dans le contexte politique actuel. Je suppose que le mot « révolte » prend des airs de déjà-vu pour ce peuple sans frontières. Arrivé chez moi, je m'empresse de mettre la main sur un livre que je lui tends. Nous nous asseyons côte à côte sur le divan. La soirée se terminera à pas d'heure. Nous le savons déjà. Une veillée de révolte. Avant même d'ouvrir « Déchirure vers l'avenir », un large sourire se dessine sur mon visage. C'est que je viens de lire sur la couverture de cette nouvelle anthologie publiée aux éditions Personnages, Jonathan Roy, directeur, et 70 poètes. Tout est là. L'essence de l'éthique du travail de Jonathan, mais aussi le reflet de l'Acadie. Jonathan ne se tient pas seul à la cime de ce livre. Il s'y tient en compagnie de 70 autres voix parfaitement baveuse. Je passe 3 pages et mon sourire s'élargit encore. Je lis. À la mémoire de Christian Brun, Ronald Léger, Daniel Omer Dano Leblanc, Raymond Guy Leblanc, Guy Arsenault, Léonard Forêt, Roméo Savoie et Maillot Fayot Leblanc, qui nous ont quittés depuis le dernier état des lieux. Et pour les poètes qui ne sont pas encore arrivés. Il est bien question ici de communauté, d'intergénérationnalité, de reconnaissance du legs, de célébration de ce qui est et de ce qui est à venir. Dès les premières lignes de l'introduction, plus un point focal qu'une introduction, mon enthousiasme se décuple. Mes yeux parcourent les mots aussi vite qu'ils le peuvent, avide de connaître l'histoire qu'il raconte. I guess que pour moi, cette histoire-là commence à l'entour du début du 21e siècle. J'arrive au mi-temps de quelque chose. Dépendamment du point de vue, selon qu'on zoom in ou qu'on zoom out sur le temps de notre littérature, l'objet qui nous intéresse est à la fois l'ébauche et l'achèvement d'une histoire brûlante, toujours en train de s'écrire. Histoire qui file déjà comme des lunes, et des lunes de braise à fouiller. Pour chaque page tournée, le feu grandit. Je suis emportée dans ce brasier par la fougue, la passion, la fierté, la dignité de chaque parole énoncée, par ces multiples impulsions qui font sparquer le poème dans le corps. Il faut le reconnaître, publié en français sur le territoire acadien, est un acte punk, politique, revendicateur, quel que soit le sujet de l'écriture. Et c'est bien ça, le projet de ce livre culte, avant même sa parution. Parcourir le corpus de la poésie acadienne sous l'angle de ses révoltes, de mettre ensemble les morceaux d'une représentation multipiste et contemporaine de l'Acadie. À mon tour, je me soulève, m'emporte, appelle mes amis pour leur lire à voix haute les textes que je redécouvre à travers l'objet divisé non pas par époque ni ordre alphabétique, mais bien en 5 collections alignées sur les déclinaisons acadiennes de la révolte. Chez nous, ça rage, de jouer dans la langue et d'en rire. Les skirts du ciel bien hautes, morsures de marrage déshabillées, au chevet d'un siècle malade. Plus qu'une anthologie qui fait suite à la précédente, dirigée par Serge Patrice Thibaudeau en 2009, plus qu'un livre anniversaire qui célèbre les 45 ans de la maison d'édition qui le publie, son impressionnant catalogue et son apport significatif à la poésie acadienne, cette anthologie est un acte d'amour pur, un geste de célébration et de mémoire, un bidon de gaz pour que le feu lève plus haut. À l'intersectionnalité des accents et des genres. De la Louisiane au Madawaska, cette anthologie, parue 5 ans plus tard que sa première projection, a gagné dans sa lenteur des voix à son corpus. Des voix de femmes, de poètes queer et autochtones, de primo-poètes explorant des thèmes jusque-là non répertoriés. Des voix entrelacées aux insoumissions qui redisent l'audace de la poésie acadienne. Je pense à Maud Bolduc, Céleste Godin, Joanie Thomas, Fernande Chouinard, Shane Michael, Félix Perkins, Jessica Gagnon, Joanie Duguay, Joanie Serré, entre autres. Je pense à Léa Doucette, que j'ai entendu lire en ouverture d'un show des Hey Babies et que je retrouve dans les pages de la revue Le Sabord. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas encore écrire un poème. La litière, le vomi, l'euthanasie de ma mère, ta porte fermée, notre maison à vendre, d'autres filles décorent mieux notre salon. Elles occupent l'espace, tout est pareil, tout a changé, tous nos rêves se réalisent. Je te regarde te marier sur Instagram. McLaughlin Drive, Antichambre numéro 129. Je voudrais vous parler du tout dernier recueil publié chez Personnages, le premier de Maxime Boudreau, Paroisse, qui parle depuis la même trêle que Sébastien Bérubé, dont j'affectionne autant la pensée que les livres. Je voudrais, mais l'espace me manque. Je vous invite plutôt à lire et à célébrer le demi-siècle de miracles recensés dans ce livre qui doit se trouver dans toutes les bibliothèques de ceux qui s'intéressent à la poésie francophone. Jonathan Roy et 70 poèmes. Une anthologie où chaque poème appelle le prochain, où une révolte en cache une autre. C'était « Refuser la contrainte ». Un texte de Vanessa Bell, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires.
Savoir en case. Une chronique de Jean-Dominique Leduc, parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. La rentrée est l'occasion toute désignée de fréquenter la bande dessinée éducationnelle, un genre qui se déploie et se densifie depuis quelques années. Que ce soit par le truchement du documentaire, de l'essai ou du récit biographique, la spécificité du langage séquentiel se prête à merveille à l'érudition. Environnement. Connu pour ses talents de vulgarisateur scientifique, notamment grâce à la série de livres jeunesse « La préhistoire du Québec », publiée aux éditions Fides, et à sa collaboration à la revue « Planche », Martin PM signe « Un sacrifice tout naturel, les ratés de la protection de la biodiversité au Québec », troisième opus d'une pertinente collection documentaire coéditée par Atelier 10 et La Pastèque. L'artiste s'intéresse au concept d'éco-quartier, ces nouveaux développements soi-disant verts qui poussent aux quatre coins du Québec comme de la mauvaise herbe. Ces désastres environnementaux et urbanistes, dont les noms évoquent invariablement la nature, alors que tout y est au préalable rasé, arbres, habitats naturels d'espèces, milieux humides, nous sont pourtant vendus comme la solution responsable au développement effréné des villes. Or, Martin PM s'en remet à la science afin d'exposer au grand jour l'hypocrisie de la classe politique et de l'industrie de la construction, dosant habilement statistiques, faits et ressentis. On ressort de ce nécessaire documentaire de papier conscientisé, informé et profondément en colère à l'endroit du mensonge éhonté et de ce navrant gâchis environnemental. Psychologie. Dans la veine d'Economics, la première histoire de l'économie en BD, publiée chez Les Arènes en 2020, l'incroyable histoire de la psychologie en bande dessinée, de Jean-François Marmion et Pascal Magna, édito, se veut une exploration ludique et éminemment sympathique de ce champ d'études qui connut une incroyable évolution au fil du temps. Du chamanisme de temps immémoriaux aux explorations pharmacologiques du XXe siècle, en passant par les préceptes de l'inconscient défendus par Sigmund Freud, qui nous accueille en amorce d'album, le cœur débordant d'allégresse, les auteurs usent d'inventivité graphique et d'humour, tout en multipliant les heureux clins d'œil à la culture populaire, afin de rendre captivante la lecture de ce copieux ouvrage. Histoire. Le 13 mai 1952, aux Aurores, le bateau des frères Bernier quitte Saint-Anne-des-Monts en direction de Trois-Rivières, transportant à son bord des tonnes de bois de pulpe. Récemment restauré, le BF s'échoue mystérieusement à quelques milles nautiques de là sur un fleuve Saint-Laurent pourtant clément, plongeant la dizaine de familles des hommes à son bord dans le pire des cauchemars, qui sera interminable. Il faudra attendre 2006 avant qu'on retrouve enfin l'épave. Cette tragédie gaspésienne des temps modernes est reconstituée avec beaucoup de doigté par le scénariste québécois Yves Martel et l'illustrateur argentin Dante Ginevra, aidé pour l'occasion par l'historien Louis Blanchette et le navigateur Donald Tremblay, La malédiction des Berniers, Glénat, Québec, s'étant tous deux dévoués plusieurs décennies à ce triste événement. Voilà un admirable devoir de mémoire qui nous rappelle de ne pas nous laisser engloutir par l'asservissement des multinationales dictées par le consumérisme. Paléontologie. C'est en assistant à une énième projection du film Jurassic Park à sa sortie au cinéma que Marion Montaigne a commencé à s'intéresser à la science des fossiles. Et c'est pour apaiser son anxiété perpétuelle qu'elle décide de se lancer dans la BD de vulgarisation scientifique. L'autrice du populaire blog « Tu mourras moins bête », qui engendra 4 albums chez Delcourt, nous revient en force avec « Nos mondes perdus » d'Argo, une plongée ludique, humoristique et documentée dans les débuts de l'humanité. l'album interroge ce que l'homme laisse de traces après son passage, dans la perspective de la fin de notre civilisation actuelle. Si on rigole un bon coup, notamment grâce à son trait souple et expressif, on ressort de cette lecture plus éclairé, plus anxieux aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Biologie. Que sait-on véritablement des arbres, outre qu'ils sont nécessaires à la vie et fort jolis? L'ingénieur forestier et écrivain allemand Peter Vollenben en dévoile les moindres secrets dans la copieuse bande dessinée intitulée « La vie secrète des arbres, multimonde ». Adapté d'un livre publié en 2015, l'album de vulgarisation scientifique repose en majeure partie sur les talents du scénariste Fred Bernard et du dessinateur Benjamin Flao, alors qu'ils insufflent à ce récit un rythme nécessaire à l'ingestion de l'impressionnante somme d'informations. La palette chromatique et le trait délicat de Flao nous permet, à l'instar d'une balade en forêt, de nous arrêter, de contempler, de nous émerveiller du miracle de la vie et, plus important encore, de réfléchir et de nous imprégner de ce vibrant témoignage pour la sauvegarde des arbres. Il en va de notre survie. Biographie. Dans le cadre du 100e anniversaire de naissance du génialissime André Franquin, le journaliste et essayiste français Bob Garcia s'est prêté à l'exercice fort réjouissant d'un passage au peigne fin de l'œuvre entière du grand maître du 9e art mondial. Revisitant chacun de ses albums, Spirou, Gaston Lagaffe, Modeste et Pompon, Les Idées Noires, Garcia contextualise dans ce passionnant ouvrage de référence les différents travaux, dévoilant des pans de l'histoire du siècle dernier. Innovation technologique, cinéma, BD, politique, démontrant au passage que Franquin était non seulement en phase avec son époque, mais qu'il a aussi été visionnaire à de nombreuses reprises. Plus étonnant encore, il dévoile le dialogue existant entre les œuvres de Franquin et d'Hergé. Si on compte étonnamment peu d'ouvrages sérieux à son sujet, outre l'extraordinaire Et Franquin créa la gaffe, de Numa Sadoul, André Franquin est inexorablement entre de bonnes mains avec Franquin, les secrets d'une œuvre, édition du Rocher. Gageons qu'une fois terminée cette passionnante lecture, vous replongerez in extremis dans l'œuvre de ce monstre sacré. C'était « Savoir en case », une chronique de Jean-Dominique Leduc parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Trop calme. Une chronique d'Émilie Nicolas, parue le 10 août 2023 dans Le Devoir. On m'a demandé de réfléchir à une question épineuse dernièrement pour une conférence à venir. Est-ce que le mouvement Black Lives Matter s'est essoufflé? Je dis épineuse parce que moins de 3 ans après la mort de George Floyd, le simple fait qu'il soit pertinent de poser la question lors d'un événement public est déjà lourd de sens. En prenant le temps d'y penser, on se rend compte que l'année a été tranquille sur le plan militant, pour à peu près toutes les causes. Les grandes manifestations, qui font d'habitude partie du paysage montréalais, sont de plus en plus rares. Il y a quelque chose à ce sujet qui n'est pas encore revenu depuis la pandémie de COVID-19. Et puisque le cycle de nouvelles se nourrit de ce qui arrive et non de ce qui n'arrive pas, cette tranquillité des rues de la métropole peut passer inaperçue. Le Montréal dont on a l'habitude, il me semble, aurait pu organiser une mobilisation soutenue et bruyante contre la réforme du droit au logement annoncée par la CAQ en juin dernier, par exemple. Il y a certes eu des rassemblements de protestation ici et là, à la suite de l'attaque en règle contre les cessions de bail au Québec. Mais rien qui ne vienne capter les imaginaires ou vraiment interrompre le train-train quotidien des gens. La pandémie est aussi venue interrompre le dynamisme du mouvement pour le climat qui s'était fédéré autour de Greta Thunberg. 500 000 personnes avaient pourtant envahi le pied du Mont-Royal avec elle en septembre 2019. Et l'urgence climatique n'a fait qu'augmenter depuis. Même si on ne compte plus les nouvelles catastrophiques sur le plan climatique, là aussi, la préoccupation grandissante d'une bonne partie du public peine à se transmettre dans la rue. Quand j'écoute les gens autour de moi, et je suis bien consciente de faire partie d'un environnement où le niveau d'engagement social est particulièrement élevé, ce n'est pas l'apathie qui a gagné du terrain, mais le « à quoi bon ?» À quoi bon organiser de grandes marches contre la brutalité policière ? Alors que même le choc causé par la mort de George Floyd s'est soldé par une augmentation des budgets de la police dans la plupart des grandes villes au pays. À quoi bon sortir dans les rues pour le droit au logement, alors que la CAQ est assise sur une majorité parlementaire aussi forte? À quoi bon bloquer les rues pour la planète si la génération de leaders qui accapare le pouvoir est résolue à continuer ses calculs électoralistes court-termistes, quitte à sacrifier tout espoir de qualité de vie pour ses enfants? Malgré les progrès accomplis sur certains défis, les mobilisations sociales des dernières années se sont aussi souvent heurtées à des fins de non-recevoir de gouvernement aux antipodes avec les revendications pourtant populaires chez un segment grandissant de la population. La polarisation politique peut donner l'impression qu'on tente de négocier avec un mur de briques. Ou alors, les messages de la rue ont été récupérés par les plus centristes, tout en étant vidés partiellement de leur sens. Par exemple, les mobilisations Black Lives Matter, venues des quartiers populaires où l'on vit trop souvent sous surveillance policière, ont été transformées par les grandes entreprises en occasion de diversifier le visage, leur publicité ou de célébrer les contributions à la société des personnes noires les plus privilégiées de leur communauté. Pendant ce temps, la réforme du système de justice criminelle, promise il y a déjà plusieurs années à Ottawa, se fait toujours attendre. Je sais que je caricature ici, mais quand même. Devant tant de récupérations, on peut comprendre l'essoufflement d'une partie de ceux qui poussaient pour des changements plus substantiels. Mais de tous les « à quoi bon ?», celui que j'entends le plus, c'est toujours « à quoi bon déranger ?» Prendre la parole sur les sujets qui nous tiennent à cœur ? Si le coût de l'expression publique est devenu si élevé? Et je sais qu'ici, la personne que je suis influe sur les échos que je reçois. Devant les attaques perpétuelles reçues pour mes chroniques, ici, ou des prises de parole ailleurs, on me dit souvent qu'on ne sait pas comment je fais. Peu importe l'intention de la personne qui fait ce commentaire, une vérité demeure, je suis en face d'un individu qui, la plupart du temps, aurait des choses importantes à dire. Et qui décidera de se taire, ne sachant pas comment les gens qui parlent font? Font pour endurer, pour encaisser la haine, les trolls, la mauvaise foi, les théories du complot, l'adversité perpétuelle. Le cocktail toxique de la dégradation des médias sociaux, de la crise des médias traditionnels et de l'ère de la post-vérité s'est conjugué à un contexte politique où il ne se passe presque jamais une semaine sans qu'il ne se publie un texte sur le danger du « wokisme », terme, attaque d'autant plus efficace qu'il est mal défini. Le résultat, une prise de parole de plus en plus coûteuse qui enlève le goût d'être un joueur actif dans la vie des idées de sa société. Les années 2010 ont été marquées par un renouveau de l'énergie militante où les slogans, mots-clics, se traduisaient tout de même par des mobilisations aussi très visibles dans le monde réel. Après un dernier grand coup d'éclat, à l'été 2020, cette même mobilisation semble avoir battu en retraite sur Instagram ou TikTok, où l'on continue certes à créer des communautés de sens, alors que les rues restent paisibles. Si l'on veut évaluer comment se porte la liberté d'expression dans une société où les transformations sociales et technologiques se sont accélérées, il faut écouter qui parle, mais aussi observer qui se tait. Porter attention à ce qui se passe, tout comme à ce qui se passe moins. Je ne veux pas ici minimiser, ou pire, invisibiliser les avancées sociales tangibles réalisées dans les dernières années. Mais tout de même, la fatigue, le choix du silence et le calme dans les rues dont je parle sont bien réels. Sans tomber dans le défaitisme, il vaut la peine de s'y pencher. C'était « Ces rues trop calmes », une chronique d'Émilie Nicolas, paru le 10 août 2023 dans Le Devoir.